Me voici dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye. Paris n'est qu'à quelques kilomètres. Le décor est typique d'une forêt d'Île-de-France. Des chênes et des hêtres peuplent d'immenses parcelles, séparées par de longues travées sablonneuses. Si l'on est attentif, on pourra entendre pouillots véloces et siffleurs, fauvettes à tête noire, hirondelles, verdiers, mésanges, pinsons des arbres, grives citelles. Et avec un peu de chance, on croisera aussi des renards, des chevreuils et des lapins surtout. Vient s'ajouter au décor un vieux pavillon de chasse datant de Louis XV. Alors là, on tombe au temps des rois de France. On imagine aisément les chasses à cours, les chevaux, les chiens de chasse et les cors affolant le gibier. Et pourtant, non. Non, non. Nous avons beau nous trouver dans une forêt proche de Paris, en pleine époque des rois de France, les images qui me viennent à l'esprit évoquent une chaleur humide et écrasante, un arbre à palabres, des odeurs de foutou, de mille, de thiboudier de nez. À la place d'un renard, j'imagine un lion. À la place d'un chevreuil, une antilope. Vous l'avez compris, l'endroit est marqué des couleurs de l'Afrique. Évidemment, vous me poserez la question, pourquoi penser à l'Afrique alors que tout nous prouve qu'on en est loin? Il y a bien sûr une information capitale que vous n'avez pas, ou pas encore. Cette information, la voici. Un vieil homme m'avait parlé d'un lieu insolite pour le tout venant, mais paradisiaque pour qui entendait faire de la radio. Dans ce lieu, on enseignait l'art radiophonique à de jeunes Africains, il y a de cela un demi-siècle. À l'approche des indépendances africaines, il fallait doter les futures ex-colonies de radios nationales dignes de ce nom. Après avoir réalisé l'état des lieux sur les radios africaines, Pierre Schaeffer, futur inventeur de la musique concrète, élabora l'ambitieux projet de mettre en place un réseau radiophonique africain. Il fallait donc construire des radios et former du personnel qui leur insufflerait la vie. C'est ici, au pavillon de la Muette, que de jeunes Africains d'ethnies très différentes venaient passer jusqu'à 18 mois pour apprendre le beau métier d'homme et femme de radio. Je tourne autour du bâtiment et pensant à ce que m'avait dit ce vieil homme, qui n'était autre que Robert Arnaud, ancien producteur et conteur de Radio France, je me dis que cette vieille ruine-là, abandonnée, d'un aspect fantomatique, avait été foisonnante de vie il y a quelques décennies. Mais je suis tiré de ma rêverie. Un homme s'approche de moi.
Bonjour monsieur, vous cherchez quelque chose? Est-ce que je peux vous renseigner?
Oui, je voulais savoir ce que c'était que ce bâtiment-là.
Ah ben là, c'est
devant nous.
C'est le pavillon de la Muette, c'est un ancien relais de chasse de Louis XV.
Et vous savez s'il appartient à quelqu'un?
Oui, bah, à vrai dire à moi. J'avais racheté avec monsieur Mavref et on a commencé à le réparer il y a 2 ans.
Et alors, est-ce que vous savez que dans ce bâtiment se tenait une école de radio dans les années 50-60?
Oui, ben, il y a eu une école, c'était la Sorafom, puis c'est connu aussi sous le nom de Locora.
Oui, voilà.
À Maison Lafitte, les gens me disaient qu'ils faisaient les animations radio pour les écoles.
Vous pensez qu'on peut le visiter?
Ah ben oui, bien sûr, avec plaisir. Ben, venez.
Ok, alors on y va.
Allons-y. Là-bas, là-bas, on est devant donc le pavillon de la Muette. Alors à cet emplacement avant, François Ier avait fait construire un petit château. On est à 12 km de Saint-Germain-en-Laye. Et c'était un château de proportions assez petites, mais très élevées, qui était destiné à être uniquement en famille, loin de la cour. Et quand Louis XV demande à faire construire un pavillon au même endroit, le premier château a disparu depuis la période de Louis XIV, il a été abattu. On essaye au début de reprendre les fondations du premier château. Et du coup, on fait un pavillon de chasse qui reprend en largeur la taille du corps central du premier bâtiment, ce qui fait 5 travées de façade. Et puis quelques années plus tard, le grand salon en rotonde, ce qu'on appelle un salon à l'italienne, qui a 5 grandes allées cavalières qui convergent dessus et qui était l'endroit où il y avait le grand studio d'enregistrement de Locora, à l'époque où Locora était installé dedans. Il y a d'ailleurs la régie qui est restée, on l'a toujours, elle est cachée derrière un miroir sans teint. C'est un détail qui est très très joli et je trouve un souvenir bien sympathique.
On va aller la voir. Hein.
Oui, ouais. On va aller la voir.
fait le tour, vous voulez ah bon, faire le tour
Chez Fer, dont on ne savait pas très bien comment l'employer, vu ses aspérités à la RTF à l'époque, il était inspecteur général, quelque chose comme ça, on l'a envoyé faire une mission d'évaluation des radios d'outre-mer.
Guy Robert, stagiaire de la promotion 1957-1958, section animateur de programme.
Alors, à l'époque, il n'y en avait pas énormément. Il y avait Brazzaville, Douala, Dakar, Abidjan, Tananarive. Et puis, c'était à peu près tout. Il s'est arraché les cheveux devant la médiocrité des programmes qui n'étaient pas adaptés à l'auditoire africain, mais qui était surtout conçu pour les blancs et petits blancs. Et à la vérité, l'auditoire africain potentiel ne pouvait pas être très important vu le coût des récepteurs. J'ai vu au Niger, par exemple, en 60-61, des villages de plusieurs centaines de personnes où il n'y avait pas un récepteur. Schaeffer a convaincu les autorités françaises de développer le réseau des stations, créer des stations, mettre à l'étude et faire fabriquer un matériel adapté pour les stations. Le climat est très chaud et très humide. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que tout ça s'inscrivait dans un contexte international. De Gaulle avait très bien senti qu'il fallait lâcher prise. Il fallait, d'une part, accompagner une évolution et, par ailleurs, préserver, bien sûr, les intérêts français parce qu'il y avait une certaine logique dans tout ça. Le studio école avait été créé pour former des gens qui, eux, allaient mettre au point, sur le terrain, une radio adaptée à l'Afrique noire francophone, c'est-à-dire à des populations dont la majorité vivait dans un état d'extrême pauvreté, de survie. Et il fallait imaginer des émissions qui allaient leur apporter des éléments de modernité, au plan de l'hygiène, par exemple, des techniques agricoles.
Édition du 18 janvier 1956. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Afin de répondre aux besoins urgents de création d'un réseau radiophonique en Afrique, Pierre Schaeffer crée la SORAFOM, Société de radiodiffusion de la France d'outre-mer. Cet organisme est constitué de plusieurs entités ayant chacune une fonction bien précise. Ainsi, le secteur des programmes, situé à Paris, rue d'Amsterdam, produit du contenu diffusable en Afrique. Le studio école, situé dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye, formera les futurs hommes et femmes africains de radio. Quant au département technique, situé rue Audinot...
Concerne la technique, il fallait partir des moyens dont les techniciens allaient disposer une fois qu'ils seraient en Afrique. Il fallait qu'ils utilisent des matériaux locaux, etc.
Bernard Spener, stagiaire de la promotion 1957-1958, section contrôleur technique.
Il fallait partir de l'idée que les stations allaient évoluer et le système évolutif des équipements techniques tels les consoles de prise de son, etc., tout était bâti sur la même idée, on part petit et on augmente petit à petit en fonction des budgets, des choses qui démarrent ou qui ne démarrent pas ou qui peuvent démarrer.
Voilà, ça a été le grand salon octogonal qui a servi de studio d'enregistrement quand il y avait l'école de radiophoniste africain francophone. Vous avez ce grand miroir qui est un miroir sans teint. Et derrière, vous aviez la régie au moment de l'enregistrement. Si on passe, il y a un petit couloir dérobé à travers lequel on voit cette pièce sans être vu.
Ah, c'est ça.
Voilà. Ça donne un air un peu coquin, mais en fait, c'était pour faire les enregistrements et en gardant à cette pièce son côté de très belle pièce de réception.
La hauteur sous plafond, à combien ?
Alors, on est à 7 mètres à peu près ici. Alors, il reste une isolation en polystyrène qui, à mon avis, doit dater de l'Okora. Le décor n'a pas été touché. La seule chose qui a été faite, sans doute, pour l'Okora, c'est que tout ce grand décor de boiserie que vous avez, il est d'origine. Il est du XVIIIe siècle. Et ce décor était peint. Et sans doute, elles ont été décapées à ce moment-là parce que le bois naturel, mis au naturel, a une bien meilleure acoustique. Thank you.
ici Radiodiffusion Télévision Française, station expérimentale du studio-école de la radiodiffusion d'Outre-mer. Nous émettons sur 202 mètres, soit 1484 kHz.
Le studio-école, c'est d'abord une antenne expérimentale.
André Clavé, directeur du studio-école.
Et Schaeffer avait réussi à convaincre le directeur général de la RTF d'accorder à la SERAFEM un nombre d'heures d'antenne important, avec le samedi et le dimanche en permanence du matin au soir. Et le jour de l'ouverture, il a fallu que les élèves, pour le soir même, fassent une émission. Nous avons réalisé la première radio locale qui ait existé en France. C'était la vie locale. C'était la voix du curé, c'était celle de l'instituteur, c'était la voix des cheminots de la gare de triage d'Achères, c'était celle des ouvriers et des entreprises environnantes, c'était une découverte de leur propre milieu par, aux étranges, des étrangers à couleur noire qui étaient chargés de faire justement cette médiation entre eux et eux-mêmes qui s'écoutaient à leur radio, à leur récepteur.
Ici, cette espèce de petit coin qui est un peu en friche aujourd'hui, il reste quatre espèces de grands socles en béton. On voit qu'il y a des nœuds à béton qui ont été coupés. Et là, c'était l'antenne de la radio qui était là. On la voit sur les vidéos, qui se dressait très très haut au-dessus de la forêt. Elle a été coupée, mais c'est ici qu'elle était installée. C'était perdu dans la broussaille. On a défriché pas mal de petits arbres envahisseurs qui avaient poussé là.
Le premier stage qui était un stage expérimental, tout à fait, qui s'est déroulé un peu comme il pouvait et en improvisant, puisque c'était quand même tout à fait nouveau. Vous savez, même la définition des fonctions n'était pas du tout la définition que l'on pouvait trouver dans les définitions RDF, puisque c'était le modèle existant.
Guy Breton, stagiaire de la promotion 1955-1956, section animateur de programme.
Donc il a fallu inventer des profils professionnels, et ensuite adapter la formation à ce qu'on attendait de ces personnes, qui étaient balancées, sortant du studio-école, dans la nature, avec personne d'expérimenté pour les aider à se débrouiller. Quoi.
On a démarré avec des gens qui n'étaient pas des spécialistes de la formation du tout.
Françoise Cordier, administratrice du Studio École.
En quoi consistait l'originalité pédagogique des formations du Studio École ?
La polyvalence, en essayant de mettre en face des Africains des spécialistes du plus haut niveau français qui acceptent le jeu de la polyvalence. Et on a trouvé, c'est ça le miracle. On a trouvé des gens tout à fait supérieurs qui ont accepté de travailler ensemble, de discuter avec des jeunes gens qui, par définition, n'avaient pas leurs antécédents, et discuter d'égal à égal. Ce qui a permis d'instaurer un dialogue et de faire passer une formation tout en ayant le respect de celui qui était en face. Dans les deux sens.
Dans les deux sens.
C'est ça la clé. C'est le respect mutuel. Et à l'époque, c'était absolument indispensable, d'autant plus que c'est en plein les déclarations d'indépendance. Donc ça a été négocié avec des États en construction qui revendiquaient leur spécificité, tout en acceptant encore une aide.
L'originalité de la pédagogie aussi, c'était la pratique.
Ah ben c'était tout de suite la pratique.
La pratique, c'était que tout ce qu'on apprenait au studio-école était mise en onde à l'antenne tous les jours.
Jocelyn Rafidine arrive, stagiaire des promotions 1957-1958, puis 1963-1964, section animateur de programme.
Nous avions à pratiquer soit le journalisme, soit monter une histoire, soit faire un reportage, une enquête. Je me souviens, dans mon cas, j'avais à faire une fois un reportage sur l'économie et la société du village qui s'appelle Chanteloup-les-Vignes. Or, Chanteloup-les-Vignes, c'était un des terroirs qui fournissait Paris en légumes et avait des petites vignes, comme son nom l'indiquait. Et chose étonnante, l'eau qui arrosait les plantations, c'était l'eau des égouts de Paris qui a été recyclée. C'était assez étonnant, vous voyez. Les enquêtes étaient faites comme ça et c'était passé à l'antenne. C'était la pratique aussi.
On était dans un autre monde, à une autre époque, comme on avait toute cette forêt autour. Moi, je me sentais très, très bien.
Suzy Agnier, enseignante au studio école au début des années 60.
La femme d'André Clavé en avait fait un endroit absolument charmant où on avait l'impression de se retrouver en perruque. Je me rappelle qu'elle avait beaucoup de goût et que donc chaque objet était bien à sa place dans ce lieu exceptionnel. Et notamment la rotonde, le salon qui doit descendre par quelques marches dans le parc.
Là où on mangeait, il y avait des immenses tables de chêne.
Des grosses tables énormes. Et le foyer, on mettait presque des arbres entiers dans la cheminée. Non, c'était formidable.
Ah oui, il y avait une cheminée.
Énorme cheminée qui datait naturellement de l'époque. C'était formidable, vraiment. On avait le passé, le futur.
On descend assez bas, quand même. Ah oui, 4 mètres.
Là, on est dans les grandes cuisines souterraines. Elles font près de 4 mètres de haut. Elles sont immenses. Il y a une très jolie cuisine avec ce qu'on appelle des potagers, dans lesquels vous avez des petits braseros. On les soulève. Là, sous ces braseros, il y a une petite plaque métallique. Et puis en dessous, il y a une petite grille en fonte. On mettait les braises et on pouvait tenir les plats au chaud. Et il y en a une douzaine de ce côté-ci, il y en a 6 autres de l'autre côté.
Édition du 1er octobre 1957. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Suite au départ du chef du gouvernement, M. Maurice Bourgès-Monory, Pierre Schaeffer a été démis de ses fonctions au sein de la SORAFOM. Il est remplacé dès aujourd'hui par M. Robert Pontillon, proche du nouveau chef du gouvernement.
Le 1er octobre, le gouvernement Bourgès-Monory devant tomber le soir.
Bernard Spener.
Nous avons appris dans le courant de l'après-midi, pour les personnels, que Pierre Schaeffer avait été déposé et remplacé par Robert Pontillon. J'ai l'impression que Pierre Schaeffer l'a appris de la même manière que nous. Il est tout à fait possible que cette fiction ait été liée au fait que Schaeffer n'était, entre guillemets, qu'un technicien et qu'il était important de mettre un politique à la place. Mais pour nous, les choses étaient beaucoup plus simples. Il fallait caser un directeur de cabinet et on nous a casé Robert Pontillon. Et évidemment, comme à l'époque, nous étions attachés à notre système et que nous n'envisagions pas de continuer cette mise en place en dehors de son concepteur et de son créateur, nous sommes partis en grève générale.
Encore une fois, il y avait cette conception globale. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait que c'était une conception générale. Ce n'était pas on fait de la formation, puis là on fait autre chose. Etc. C'était un tout.
Guy Breton.
Et ça chez Fer a fait œuvre de création tout à fait remarquable. Alors après, il a trouvé les bonnes personnes. Et parmi ces bonnes personnes, bon, il y avait André Clavé qui était tout à fait l'homme qu'il fallait pour créer ce lien vraiment familial.
André Clavé était quelqu'un qui, dès le départ, au moment où Schaeffer avait eu cette idée, était lui aussi déjà dans cette atmosphère-là.
Jocelyn Raffidine arrive.
Il est devenu le directeur du studio école et c'est lui qui menait donc la barque, si je puis dire, et qui insufflait les différentes manières de vivre et de se parler, de se rencontrer dans la cour, à la cantine, quand il y avait des périodes de congé des cuisiniers et serveurs. Bien, on déclavait, n'hésitez pas à mettre la main à la cuisine et il faisait des repas. Par exemple, je me souviens que Guy Breton et moi-même, on n'aimait pas du tout les steaks tartare. Et un jour, lui, il avait des steaks tartare. Voilà, on s'est regardé. Et Clavé n'avait pas compris. Évidemment, on n'avait pas vu. Mais discrètement, Guy et moi, on est parti à la cuisine. Puis on est revenu. Dès que Clavé nous demande, mais où est-ce que vous étiez? On a un peu arrangé les steaks de notre côté. Et il a regardé, il a rigolé, il a dit, c'est pas possible. Vous auriez pu dire que vous n'étiez pas pour les steaks tartare, on nous aurait préparé autre chose. Françoise Courdier était la coordinatrice des stages. Et donc, c'était l'autorité qui était responsable des stagiaires. Et Françoise Courdier faisait aussi la discipline, sévère mais honnête. Mais à côté d'elle, pour tempérer tout cela, il y avait Mme Christiane Lefebvre. C'était un peu la nounou, la confidente aussi des stagiaires. Et on lui parlait, effectivement, quand il y a des problèmes personnels ou des conflits. C'était toujours Christiane qui venait et qui essayait d'arranger tout cela avant qu'on le monte à l'échelon supérieur si nécessaire, Françoise Courdier ou Clavé, ce qui est très rare.
Le concours d'entrée, c'était d'abord une mission en Afrique.
Françoise Courdier.
Il y avait des missi dominici, en fait, qui essayaient de ratisser dans chaque État quelques clients qui aient un niveau suffisant pour qu'on espère qu'ils puissent collaborer à la formation, puisqu'il s'agissait d'une formation où on leur demandait d'apporter eux-mêmes leur propre capacité à créer, à inventer, à apprendre. Sans ça, nous, on ne pouvait rien. Après, quelques-uns étaient retenus, la coopération leur payait le voyage, et ils arrivaient à Maison Lafitte. Et là, il se passait le concours proprement dit, c'est-à-dire une série d'épreuves qui chahutaient pas mal, d'ailleurs, ça durait 8 ou 10 jours, je ne me rappelle plus. Et alors, il y avait de l'écrit et de l'oral.
Il s'agissait quand même d'avoir la certitude d'un certain minimum, sinon de connaissances, du moins d'intérêt pour l'extérieur.
André Clavé.
Je dirais même que c'était cela qui est devenu peu à peu le critère le plus dominant. Bon, comment faire? Eh bien, c'est tout bêtement des questionnaires. 30, 40, 50 questions. Sur des sujets extrêmement différents. Nous établissions les questionnaires en fonction de tout ce que l'on pouvait connaître, des sources d'informations mises à leur disposition. Et ensuite, il faut que ce fameux animateur ait quand même des qualités d'animation. Mais il s'agit de trouver des gens de parade, mais qui aient une disposition d'esprit leur permettant d'utiliser cette capacité de parader pour le meilleur et non pas pour leur propre intérêt. La capacité de savoir écouter, et donc de savoir se taire, qui est le meilleur animateur de radio, si ce n'est pas celui qui ne dit rien. Hélas, où le trouve-t-on? Et pour se taire, il faut savoir mettre en condition les gens qui, eux, doivent s'exprimer, et ne pas surprendre les gens, mais les aider au contraire à penser très à l'avance à ce qu'ils veulent dire et à le découvrir. Donc se taire, savoir écouter, avoir une formidable mémoire et un sens du travail très très poussé, des qualités donc psychologiques très nécessaires, d'obstination, de volonté de travailler. Voilà, il y a tout un ensemble alors des critères qui sont communs à tous ces genres d'activités.
On essayait de faire un programme, mais ce n'était pas très facile, en faisant venir des gens importants dans différentes spécialités.
Françoise Cordier.
Bon, alors on a fait venir, je ne me rappelle plus, on a fait venir Albert Ducrot, qui à l'époque était le grand spécialiste de tout ce qui était automatisme, qui effectivement a pas mal intéressé des Africains qui n'avaient quand même pas vu ça tous les jours au début. Après, c'était devenu pour eux beaucoup plus courant, mais on a fait venir différents conférenciers. Bon, évidemment, Giscard d'Estaing, mais ça, vous avez entendu parler. C'est pas le plus intéressant. Enfin, si, c'était très intéressant, parce qu'à l'époque, il n'était pas encore l'homme politique qu'il est devenu après.
C'était des conférences, pas obligatoires, et tout le monde venait.
Yves Guy débute. Stagiaire de la promotion 1957-1958, section contrôleur technique.
On commençait par la dîner. On allait d'abord dîner à la cantine. Et puis, c'était pas des clans, c'était pas fermé. Hein, ah oui. Clavet était à côté d'un stagiaire, mais pourquoi ? Parce que le hasard avait. On était bien mélangés. Et puis, ça commençait. L'invité souvent était là. Ça commençait à bouillir. Et puis après, on montait vers la rotonde, où tout avait été disposé, où on nous servait peut-être un café ou je ne sais quoi. C'était familial. Et puis, ça montait. Et on n'arrivait pas. Et Clavet devait un jour, un moment, dire « Non, le dernier train, il part dans 10 minutes. On arrête hein !» Et s'il n'avait pas dit ça, on aurait passé la nuit. C'était tout le temps des gens de valeur qui n'étaient pas forcément connus à l'époque. Mais c'était des techniciens, c'était des scientifiques, c'était des politiques... C'était des administratifs, c'était des grands entrepreneurs, c'était des clowns, c'était des comédiens, c'était je ne sais pas quoi. Tout le monde y passait, mais il y avait un intérêt à ce qu'ils pensaient. En général, c'était leur profession. Et c'était éblouissant.
Et ce n'était pas forcément en rapport avec l'Afrique ?
Pas du tout. Quand Rocard venait, si vous voulez qu'il dise de l'Afrique, quand il y a un scientifique dont j'ai oublié le nom, mais qui est venu plusieurs fois parler des fusées qui étaient au balbutiement, qu'est-ce que ça venait faire avec l'Afrique ?
Ou bien de temps en temps un nom impressionnant, pour donner aux choses une apparence plus sérieuse qu'elles n'ont. Quand donc il a été confirmé que je devais vous venir parler d'impôts, j'ai vu écrit sur cette feuille « Pourquoi faut-il payer des impôts ?» J'ai été saisi d'un sentiment de panique en me disant « j'ai pas du tout envie de dire pourquoi il faut payer des impôts, mais plutôt comment, lesquels, dans quelles conditions ?» Et puis en réfléchissant, je me suis dit que c'était pas inutile d'y réfléchir. Et je vous propose de commencer notre réflexion par là.
La plupart des stations qui commençaient à émerger. On essayait de mettre un conseiller technique français pour accueillir les jeunes stagiaires frais et moulus du studio école.
Françoise Cordier.
Il y avait entre la façon de voir la formation de l'ORTF et la formation studio école une antinomie totale. S'expliquant aussi qu'à l'ORTF, quand le stagiaire sortait du cours de formation, il tombait dans un service organisé qui pouvait l'encadrer et lui expliquer les façons de faire. Alors qu'en Afrique, c'est pas ça du tout, il tombait directement devant la nécessité de faire, tout seul.
On m'a dit, vous y allez et vous revenez le plus tôt possible pour laisser la place à des gens que vous allez former.
Yves Guy débute.
J'ai formé beaucoup d'opérateurs que je n'ai pas formés à la façon ORPF. D'ailleurs, j'en aurais été incapable et puis ça ne m'aurait pas intéressé. Je formais des gens comme ils étaient et en général, j'avais une admiration s'ils avaient des intelligences supérieures.
Aujourd'hui, 27 avril 1960, le Togo n'est officiellement plus une colonie. Le chef d'État togolais Sylvanus Mesdames, Mesdames, Messieurs, bonjour. Le Sénégal accède en ce jour du 4 avril 1960 à l'indépendance. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Restera une date gravée dans la mémoire. 3 août 1960, le Niger est un pays indépendant. Le Bénin n'est plus une colonie française. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, 22 septembre 1960, le chef d'État malien Modibo Keïta a signé le traité d'indépendance. Édition du 14 avril 1962. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Suite aux indépendances africaines, la SORAFOM change de nom et devient l'OCORA. En effet, le terme de coopération avec les pays africains est aujourd'hui plus approprié car les radios africaines n'appartiennent plus à la France. Quant à l'actuel directeur de l'OCORA, M. Robert Pontillon, il est prévu qu'il soit remplacé dès l'année prochaine par M. François Cardin.
À partir de 1964 et du règne de Cardin, c'est devenu un enfer.
Françoise Cordier.
Pourquoi ? Parce qu'on avait compris ce qu'il fallait faire. Ça faisait 10 ans qu'on était là. On commençait à comprendre ce qu'il fallait faire et ce monsieur cassait tout. Alors il débarquait un jour dans la semaine et venait. Il faisait soi-disant une réunion avec le staff, entre guillemets, et il disait des grossièretés. Donc c'était un individu qui s'était fait parachuter là, et qui, je crois d'ailleurs, n'avait pas une estime tellement de ses supérieurs, des personnes qu'il avait envoyées là pour se débarrasser. Mais lui a détruit, sciemment. Alors là, je sais que pour Clavé, ça a été horrible. Mais pour nous tous aussi, ça a été abominable. On nous convoquait à des réunions où il nous injuriait. Bon, il nous disait qu'on n'avait pas à faire ce qu'on faisait, que tout ce qu'on faisait était ridicule et qu'on dépensait l'argent de l'État pour rien. Enfin bon, des tas de choses, je ne me rappelle plus. Hein. Mais vraiment, mettant en coupe réglée tout ce qu'on avait essayé de faire. Alors nous, qui savions que ça commençait à marcher, c'était vraiment difficile.
Vous savez, on disait que ça avait été un grand résistant, et les mauvaises langues disaient, pour faire sauter les ponts, il est parfait, mais pour fonctionner une entreprise, c'est pas pareil, c'est pas la même chose.
Guy Breton.
Moi, je ne sais pas quelle est son histoire de résistant, hein, je n'ai pas de raison d'en douter. Mais il était avant, il s'était occupé de Moulinex, il avait été directeur de Moulinex, ce qui préparait tout à fait à faire de la radio ou de la télévision. Alors, c'est toujours ingénieux à mettre à la tête de ces entreprises de l'audiovisuel des gens qui ne sont pas des professionnels. Le directeur général de l'époque, François Cardin, voulait détruire le studio école. Il a essayé de faire de moi une espèce de cheval de Troie. Il tombait très mal, parce que, vu l'estime que j'avais pour André Clavé et pour le studio école, il était hors de question que je joue ce rôle. Et alors, il a essayé une deuxième façon en me confiant la création d'un centre de formation qui serait concurrent du studio école à Abidjan. Il voyait un moyen de supprimer le studio école en disant, vous voyez, on a un centre qui va être un centre régional. Ben voilà, on n'a plus besoin du studio école, fini le studio école. Ça, je pense que c'était sa stratégie. André Clavé avait délégué la partie technique à Kevorkian, donc, qui était un ingénieur de l'ORTF, de l'ARDF à l'époque. Yves Guy Debut a bien heureusement pris la relève de Kevorkian parce qu'il a été recruté, comme moi, hein, il a dû passer le même concours d'ailleurs, mais lui a été envoyé tout de suite en Afrique, avant même la formation. Parce que Schaeffer a besoin de tellement de personnel. Lui. Bon, il avait, comme ça, vaguement travaillé un petit peu dans le studio où on faisait les émissions à destination de l'Afrique. Et il a dû faire un petit stage là pendant quelques semaines, quelques mois. Et on l'a envoyé en Afrique, où il était au Niger pendant un an, je crois, quelque chose comme ça. Et après, il est venu faire son stage. Donc, il a eu le grand avantage d'avoir une expérience de terrain avant. Et c'est là qu'il a pu faire apparaître le décalage qu'il pouvait y avoir entre la formation telle qu'elle avait été conçue par cet ingénieur de l'ORTF, Kevorkian, qui lui raisonnait dans le cadre ORTF. Quelqu'un de formé dans cette formation-là arrivait avec un encadrement qui pouvait l'aider à se familiariser, à devenir opérationnel. En Afrique, non, les gens arrivaient, elle est tout de suite en opération. Le magnétophone en panne, valguide des pannes, le savoir faire marcher, etc., organiser. Donc, c'était une formation très, très différente qu'il fallait concevoir, ce qu'a très bien compris Guy Debut, puisque lui, il avait eu l'expérience du terrain et il avait vu quelles étaient les lacunes de la formation telle qu'elle était appliquée au départ. Et c'est à partir du moment où il a pris en main la direction de la formation technique qu'on a eu des résultats extrêmement intéressants.
On partait de la pratique pour revenir à la théorie. Quand c'était possible, parce que ce n'était pas possible pour tous les cas, c'est logique.
Yves Guy Debut, responsable pédagogique de l'enseignement technique.
Si vous faites de la théorie sans savoir trop où vous allez, par exemple la prise de son, on ne faisait pas comme ailleurs, ben, vous êtes en stage de formation de son, vous allez faire 2 mois de son. Ben non, on commençait, on en faisait 2 ans. On n'en faisait peut-être pas 100% toute la journée, mais dès le début, parce que c'était le métier. Hein, au lieu d'apprendre à je ne sais quoi, voilà, il y a un cas, il y a tel amplificateur, ben, il a tel défaut, qu'est-ce qu'on fait? Comment fonctionne-t-il, etc. On était imprégné de l'efficacité, c'est ça, je crois.
Je vais vous montrer la pièce aux poutres. Donc ça, on est sous le comble, et il y a une pièce avec un très beau poinçon de charpente. C'est la seule pièce de charpente qui a un peu d'allure dans le pavillon. Le reste des charpentes est vraiment tout à fait quelconque.
En revanche, la maison forestière, elle n'est pas classée monument historique.
Non, elle n'est pas classée. Elle est inscrite à l'inventaire. Elle n'est pas inscrite non plus, pardon. On essaye de la faire inscrire, de lui faire obtenir le label de la Fondation du patrimoine. Parce que la maison forestière, là, on la voit devant nous, en fait, ce n'est pas une maison forestière, c'est la maison du garde des chasses. Voilà. Alors là, on est sur le toit, le toit terrasse. Attention, il y a un affaissement. À l'origine, dans le premier château construit par François Ier, il y a Philibert Delorme qui fait construire au sommet du premier château une terrasse belvédère. Et Nicolas Galland, qui est donc l'architecte qui fait exécuter la muette, propose, en écho, en souvenir de ce qui avait été fait sur le premier château disparu, de refaire le même aménagement, d'avoir une terrasse pour suivre les chasses à cour. Et c'est ce qui fait réaliser.
Il y avait quelqu'un dont on ne parle pas beaucoup, M. Maigne, qui était un peu le psychologue. Il était documentaliste, mais il faisait aussi office un peu de psychologue.
Jocelyn Raffidine arrive.
Il travaillait dans les combles, là-haut, du château de la Muette. Et quand nous devons passer un par un chez lui de temps en temps, il était le psychologue, et c'est lui donc qui contrôlait un peu, si je puis dire, comment cette atmosphère insufflée par André Clavé était perçue par les stagiaires.
Si vous voulez, le cadre du château était meublé intelligemment et pratiquement, avec de beaux objets. Il y avait des bonnes tiers, des trucs. Comme la bibliothèque qui était sous les combles, c'est idiot de faire une bibliothèque sous les tombes. On se cogne la tête, etc. Ben, là, c'était merveilleux. Et il y avait Maigne, qui faisait partie du décor. Il apportait à chacun l'intérêt que cette personne voulait recevoir demain. Il était étonnant. Des connaissances, mais non, mais la gentillesse. Les connaissances, c'est secondaire. Et puis, il souriait. Il ne donnait jamais un dogme. Il faisait une petite remarque, comme ça, en souriant. Ça pouvait être un peu grivois, ça pouvait être très religieux. On avait le souffle coupé. Et puis, quand on arrivait, tout d'un coup, il y a une impression de réflexion qui vous tombait dessus. Vous alliez là-bas pour savoir quel est le type de soupape dans telle voiture, ou l'origine d'un mot, etc., ou les œuvres complètes de Bossuet, etc. Vous aviez tout, et vous aviez même qui disait « Ah, mais vous avez vu là ce bouquin, il est assez exceptionnel dans ce domaine !» Et il vous foutait une pile de bouquins dans une atmosphère de bibliothèque qui était remarquable. Et en plus, après, on remontait encore un escalier, on arrivait sur le toit de la Muette, sur une espèce de petite terrasse. Et si vous voulez, on était mené par une ambiance, une atmosphère.
Vous nous parliez tout à l'heure de ce lieu qui vous a laissé des bons souvenirs.
Ah oui, mais merveilleux. Ça, c'était la nature d'André et puis les copains que je retrouvais.
Suzy Agnier.
On avait un peu l'impression d'être en vacances. Et en même temps, de faire son boulot, justement, de se poser des questions. On ne se les posait pas quand on était à la radio pour enregistrer. Mais là, on se disait, tiens, former des Africains. Et ils étaient très ouverts, très agréables. Je me rappelle notamment une fille qui m'avait absolument bouleversée, nigérienne. Mais était bien cette fille. Tout ce que je peux vous dire, que j'ai grand plaisir à y aller, et que c'était très loin, mais qu'une fois que j'étais là-bas, j'étais hors du temps du fait de travailler avec des Africains, d'être reçue par André et de retrouver plein de copains. Le temps s'arrêtait là-bas. Je les avais individuellement ou presque par deux ou trois. C'est pas des cours.
Ah, je croyais que c'était des.
Et non, on travaillait avec la radio. Il fallait les enregistrer, il fallait les écouter. On reprenait. On avait un vrai studio d'enregistrement. Je trouvais un peu saugrenu ces Africains qu'on est allés dans l'herbe. À qui je disais alors qu'ils respirent beaucoup mieux que nous. Vous voyez, ce sont vos côtes là, bon, poussées sur mes mains. Ils étaient tellement gentils que bon, c'était. On s'amusait bien.
L'accent des stagiaires, est-ce que c'était une difficulté ?
Moi, non. L'important, c'est de savoir ce qu'on passe, c'est-à-dire son cœur, son âme, enfin, ce que vous voulez. Mais ça, la réalité, c'est pour ça que j'adore le micro. Parce que vous transmettez sans qu'on vous voie, donc il n'y a déjà pas... tout est très bien. Le tout, c'est de le faire avec passion, avec amour, et d'essayer pour être... donc dans l'expression, j'ai horreur de ce mot, l'expression dramatique, la parole tout simplement, être le plus simple possible et le plus près de son cœur, c'est tout.
Bien entendu que le studio école, c'était pour former les Africains. C'était pour que ces Africains puissent assurer la relève de tous les postes cadres tenus dans les radios-télévisions d'Afrique et de Madagascar.
François Brignier, stagiaire de la promotion 1965-1966, section animateur de programme.
Au fur et à mesure que ces Africains étaient formés, ils étaient donc... envoyés dans leurs pays respectifs pour travailler. Mais au fur et à mesure aussi, le pays a manqué non seulement de cadres supérieurs, mais ces mêmes hommes formés au studio école sont devenus ministres, directeurs de la formation, et ils sont devenus directeurs des affaires de la culture. Bref, ils sont devenus les hauts dirigeants de beaucoup de pays africains. C'est une sorte d'hémorragie par le haut, et
les responsables de l'Office de coopération radiophonique se sont dit, bon, on va former des blancs polyvalents pour des missions de courte durée, avec une double mission, former les équipes qui seront auprès d'eux. Donc il y avait toute la formation de stagiaires que nous avions autour de nous, mais en même temps aussi assurer comment des campagnes éducatives, et particulièrement en brousse. Et ces campagnes éducatives, c'était aussi, par exemple, de recueillir aussi toutes les par les traditions orales, musique, contes, de recueillir aussi. Et puis d'un autre côté aussi, assurer en multi, en plusieurs langues ethniques, d'assurer les campagnes éducatives aussi simples que la vaccination des animaux, que se laver les mains avant de déjeuner. Donc c'était des campagnes, j'allais dire, éducatives basiques, mais essentielles.
Il y avait une réunion, l'un d'entre nous ayant à mener le débat.
Pierre Toureille, stagiaire de la promotion 1965-1966, section animateur de programme.
Plus on approchait de la fin, parce qu'on sentait venir une fin, la fin parce qu'il y avait conflit entre le studio école et la direction de l'époque, animée par le président, Monsieur Cardin, et ce qui créait évidemment une atmosphère assez particulière. On était conscients les uns et les autres qu'on avait à défendre quelque chose qui existait, qui allait porter ses fruits, qu'on allait exporter. Et il y avait là une tension, et en même temps, à titre personnel, à chaque fois, la possibilité et l'obligation de renvoyer, si vous voulez, aux gens qui dirigeaient, André Clavé, Françoise Cordier et d'autres, ce qu'on avait appris, ce qu'on avait reçu, ce qu'on avait compris.
Les Africains ont eu les meilleurs professeurs, que ce soit des groupes, que ce soit Alain Jérôme, c'était un grand reporter de guerre qui avait couvert la guerre d'Algérie. C'était des écrivains. C'était des personnes de la Comédie française. Il y avait, j'allais dire, une ouverture de talent, d'ailleurs aussi bien africain que blanc. Ça, c'est quelque chose qu'on n'oublie jamais. On a eu donc des réalisateurs de l'ORTF, Georges Godbert, Claude Dupont, Alain Barrault, je ne me souviens plus de tous les noms, mais enfin des gens formidables. Je crois que cet esprit, c'est dans Pierre Schaeffer, effectivement, et André Clavé, qui a soufflé cette volonté formidable de fraternité et en même temps de haute technicité dans ce studio école. Coup de chapeau, oui, un coup de chapeau.
En mai 68, il y a un certain nombre de collègues de l'époque qui ont fait grève et qui ont été mis sur la touche.
Françoise Cordier.
Et dans le même mouvement, il est évident qu'il n'y avait pas de raison que les gens du studio école, qui étaient quand même en principe relié à l'ORTF, ne soit pas mis dans le même panier. C'est tout à fait évident. Alors qu'après, il a même mis une certaine violence dans la façon dont il a organisé la destruction. Les gens du studio école, comme beaucoup d'autres, ont été considérés au niveau de l'ORTF comme des dangereux revendicateurs. On était en grève officielle. André Clavé était hors les murs. C'était la seule façon de survivre. Ce qui n'est pas arrivé d'ailleurs, puisqu'il était vidé.
En 68, ça a été la fin du studio école parce que l'évolution générale politique et mondiale faisait que les États avaient de plus en plus tendance, d'une part, de commander leur matériel où ils avaient envie, alors que la conception initiale du matériel par le CORA, c'était un matériel adapté au climat et adapté aux conditions d'exploitation. Mais les Africains ont vite considéré que c'était du matériel au rabais.
L'ingénieur venant du centre de formation de l'ORTF, qui, lui, ne voyait qu'au travers les études classiques, a fini par démolir complètement tout ce qu'avait fait Guy Desbuttes. Il n'a jamais compris ce qu'avait fait Guy Desbuttes. Il considérait que Guy Desbuttes faisait du bricolage. Il n'a absolument jamais compris à quel point c'était intelligent.
Walk on in there.
23 janvier 1969. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. L'OCORA n'est officiellement plus. L'organisme de coopération vient d'être intégré à l'ORTF. André Clavé, le directeur du centre de formation de radio basé au pavillon de la Muette, plus connu sous le nom de Studio École, a été nommé à la DAEC, Direction des Affaires Extérieures et de la Coopération. Il laisse la direction du Studio École à Guy Breton, lui-même ancien stagiaire.
Donc à partir de ce moment-là, la grande entité ORTF ne pouvait pas envisager d'avoir une espèce de village gaulois qui serait resté là.
Guy Breton, ancien stagiaire, directeur du Studio École de janvier à septembre 1969.
Ça a été épargné pendant un certain temps, puisqu'André Clavé avait été nommé comme responsable de la coopération, et par conséquent, il a essayé de préserver ce qui était pour lui l'essentiel, la formation professionnelle, puisque c'était l'avenir quand même, et ce qui pouvait aider, continuer à aider les radios africaines, et puis les autres actions de coopération, comme la coopération de programme, etc.
Édition du 2 janvier 1970. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Le Studio École n'est plus. Rappelez-vous ce petit îlot isolé en forêt de Saint-Germain-en-Laye, chargé de former les futurs hommes et femmes africains de radio. Désormais, c'est à Bry-sur-Marne, annexe de l'ORTF, que les étudiants africains iront étudier sous l'égide de formateurs de l'ORTF.
En 69-70, on nous a expliqué que les Africains n'en voulaient pas, que c'était complètement ridicule, qu'on avait essayé de les gruger. Ce qui était évidemment sans lieu de nos pensées, ils avaient besoin aussi d'exprimer un rejet politiquement.
Il restait deux ou trois illuminés qui essayaient de disperser, que ce soit des bâtiments, du matériel, des camions partaient, on brûlait tous les papiers, tout était disloqué. Ça a été complètement papillé, mais presque.
L'ORTF a continué à envoyer des programmes en Afrique. Mais c'était une fin de collaboration. Peu à peu, il était normal que les choses évoluent, que ces radios prennent leur autonomie totale.
On a tous été explosés.
C'était tellement massacré.
Dès 70, le studio a été cassé. Je suis parti peut-être un des derniers parce que technicien. Mais il y en a d'autres qui avaient pour mission de raser certains locaux, même, qui étaient des préfabriqués, donc qui n'avaient aucune valeur en eux-mêmes. Et puis, c'est revenu aux eaux et forêts. Je crois que ça dépendait des eaux et forêts. Personne n'en a voulu. Ça a été pillé. Et ça a été abîmé.
Ce dont je rêve, eh bien, c'est de savoir que ça pourrait continuer, même à notre époque, si on rencontrait les gens sensibles à cette transmission. Mais on me dit, t'es folle.